DW. Magazine Santé.
Produire des vaccins en Afrique pour les Africains. Le 20 juin dernier à Paris, un forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale a regroupé des dirigeants et acteurs du secteur de la production de vaccins pour permettre aux Africains de ne plus être que de simples consommateurs, et on en parle dans cette émission. Dans la seconde partie de ce magazine, nous irons en République centrafricaine où la lutte contre le VIH-Sida reste un défi majeur avec des difficultés d'accès aux antirétroviraux. Mais il y a aussi la stigmatisation des personnes séropositives. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon micro. Bonjour à toutes et à tous. Comment permettre à l'Afrique de produire des vaccins sur le continent destinés à sa population? Plusieurs dirigeants africains, donateurs et groupes pharmaceutiques étaient récemment réunis à Paris pour mettre un coup d'accélérateur à la production de vaccins en Afrique. Durant ce forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin Gavi, plus d'un milliard de dollars ont été annoncés pour booster la production des vaccins sur le continent africain touché par une épidémie de choléra. Pascal Barolier est le directeur général de l'engagement public et de l'information de Gavi. Il est à la tête d'une équipe multidisciplinaire de professionnels, notamment de la défense de la santé et des politiques publiques. On écoute Pascal Barolier qui revient dans un premier temps sur la situation actuelle en Afrique en termes de production de vaccins et de couverture vaccinale.
L'ensemble de la production de vaccins nécessaire en Afrique arrive de l'extérieur, de producteurs de pays du Nord, mais aussi de producteurs indiens. La production autonome africaine est quasi inexistante. Donc l'objectif de l'accélérateur de production de vaccins africains est effectivement de créer une industrie du vaccin autonome en Afrique avec un objectif fixé par l'Union africaine d'atteindre une autosuffisance de l'ordre de 60% des besoins africains à l'horizon 2040.
On annonce un dispositif de financement de plus d'un milliard de dollars et plusieurs pays, notamment l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni, les États-Unis vont participer. Est-ce que ces fonds seront suffisants?
Alors suffisants, certainement pas. C'est un très gros pas dans la direction d'une souveraineté vaccinale africaine. L'objectif de l'accélérateur est de donner aux fabricants et aux investisseurs une assurance que les vaccins qui seront produits et enregistrés en Afrique sont effectivement financés avec une capacité des fabricants de vaccins de vendre à des prix compétitifs. Et c'est à cet endroit précisément qu'intervient la facilité AVMA de Gavi, puisque l'idée est d'apporter un petit complément financier de manière à ce que les producteurs de vaccins africains qui arriveront sur le marché ne soient pas pénalisés par leur relative nouveauté. Parce qu'on sait très bien que les fabricants plus anciens qui connaissent les arcanes de la production de vaccins sont capables de produire à des coûts plus réduits. Un nouveau producteur de vaccins va forcément avoir des coûts supérieurs et la facilité AVMA vise à donner ce coup de pouce pour que les prix soient compétitifs et que les pays africains puissent acheter des vaccins en Afrique.
Et vous avez parlé, évoqué un peu le rôle de Gavi dans ce processus. Est-ce que Gavi aura concrètement encore un autre rôle à jouer?
Le reste, je dirais, du rôle est un rôle d'accélération de la vaccination, puisque nous visons en 5 ans à vacciner plus de 500 millions d'enfants supplémentaires. Nous avons vacciné 1 milliard de personnes entre l'année 2000 et l'année 2020. Et entre l'année 2020 et l'année 2030, nous allons à nouveau vacciner plus d'un milliard de personnes. Un enfant sur deux qui naît sur la planète est vacciné grâce au financement de Gavi et au travail de l'Alliance, qui implique également l'UNICEF, l'OMS, la Banque mondiale et d'autres partenaires.
Il est aussi question beaucoup du vaccin contre le choléra. Qu'espérez-vous à Gavi en ce qui concerne la lutte contre le choléra sur le continent africain?
Nous avons vu sur le choléra une multiplication des capacités de production du vaccin choléra. Nous avons la capacité de déployer ce vaccin pour des campagnes dans les situations qui sont provoquées notamment par les crises climatiques, mais aussi de plus en plus dans le cadre d'une vaccination choléra de routine. Et on a vu un certain nombre d'engagements pour continuer d'augmenter cette capacité de production de vaccins choléra et pour localiser de la production, notamment en Afrique.
La question de l'inégalité de l'accès aux vaccins sur le continent africain a été mise en lumière notamment lors de la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'on peut espérer qu'à terme, il y ait plus d'égalité d'accès?
Absolument. Le Covid-19 a été un réveil douloureux pour le continent africain qui s'est rendu compte que, bien entendu, les producteurs de vaccins, qu'ils soient situés dans le nord ou dans le sud, se servent et servent leur population en premier dans les cas de pandémie. Et donc, ça a été un réveil qui a mobilisé le continent africain pour se dire il nous faut une industrie du vaccin autonome qui nous permette de vacciner nos populations. Et avec l'Union africaine, avec Africa CDC, nous avons fait le design de cette facilité, l'accélérateur de production de vaccins en Afrique, pour que nous ne soyons plus dans cette situation lors de la prochaine pandémie.
Qui dit production de vaccins dit également d'avoir les brevets. Est-ce qu'il en a aussi été question?
Tout à fait. Donc ça fait partie de la discussion en cours à l'OMS dans le cadre du traité sur la pandémie. Et donc un certain nombre de sujets comme les transferts de technologies et le partage des connaissances fait partie de ce traité qui est actuellement en négociation, pour notamment permettre le partage de la connaissance et notamment au niveau de la propriété intellectuelle. C'est un sujet qui est actuellement en discussion. En ce qui concerne l'initiative de Gavi, il est clair qu'un certain nombre de transferts de technologies sont en cours. Nous avons notamment vu l'annonce d'un transfert de technologies qui devrait à terme permettre de produire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus en Afrique. Donc ça fait partie effectivement de l'écosystème que nous facilitons pour permettre ce transfert de la connaissance et des technologies vers les producteurs qui soient localisés en Afrique.
DW.
Vous écoutez Capsule Santé sur la DW. On va se rendre maintenant en Centrafrique pour parler de la lutte contre le VIH-Sida qui reste un défi. Outre les difficultés d'accès aux antirétroviraux, les personnes testées positives sont confrontées à la stigmatisation. C'est le cas notamment à Soso-Nakombo, au sud-ouest du pays, où le manque de médicaments ou encore la stigmatisation contraint de nombreux patients à s'éloigner de leur communauté pour être pris en charge. Le reportage à Soso-Nakombo de Jean-Fernand Couédin.
Vous savez, ici, les gens ne veulent pas prendre les médicaments au centre de santé parce qu'il y a ses frères, il y a sa famille qui sont là au centre. Quand ils les voient comme ça, ils pensent qu'ils vont dire quelque chose au quartier. C'est à cause de ça que les gens qui sont séropositifs ne veulent même pas prendre leurs médicaments.
Eugène Fessera est médecin. À Soso-Nakombo où il exerce, les pesanteurs sociales ont un impact négatif sur la lutte contre le VIH-Sida. Pour y faire face, avec ses collègues, ils ont fait le choix de fournir discrètement le traitement aux patients, une mission qui n'est pas aisée.
Si on connaît la maison de cette personne séropositive, on l'amène son médicament au domicile. Et ça dépend aussi de l'autre des catégories des parents. Certains parents peuvent nous collaborer, mais certains non. C'est l'ignorance qui est à base de tout ça.
Irène, il s'agit d'un nom d'emprunt. Prends connaissance pour la première fois de sa situation sérologique. Saint-Laurent, Brice Maléassi, infirmier accoucheur diplômé d'État, responsable de santé de reproduction, lui prodigue des conseils susceptibles de lui permettre d'accepter son statut.
Les femmes qui viennent ici, surtout les femmes enceintes, là, avant de démarrer la consultation prénatale, on démarre par conseil, on emmène ça souvent, information, éducation et communication. On fait IEC d'abord aux femmes enceintes sur les VIH, sur les maladies transmissibles et sur la prévention aussi de paludisme sur la grossesse. Mais dans notre centre de santé ici, beaucoup des cas que nous recevons et nous faisons des préventions, c'est sur la prévention de la transmission parent-enfant, communément appelée PTPE. Ce n'est pas facile, question de VIH là. Il arrive des fois, il y a certaines qui acceptent, mais d'autres non plus.
Dans la lutte contre le VIH-Sida et d'autres IST, plusieurs autres acteurs interviennent aux côtés des autorités. Seulement, certains partenaires comme la Croix-Rouge française se sont retirés. Le projet porté par la Croix-Rouge dans la zone est arrivé à terme. Selon les statistiques des sources hospitalières ici, 8 personnes sur 10 dépistées sont touchées par le VIH. Mais le dépistage volontaire se heurte au manque d'informations. C'est ce que confirme Amandé Raoul Moussa, ingénieur en technique biomédicale à l'hôpital de Susuna Kombo.
Au fait, ici, pour les volontaires, c'est difficile. C'est difficile. Beaucoup plus c'est chez les femmes enceintes, parce que dans le bilan prénatal, c'est obligatoire.
À Susuna Kombo, les défis sur le plan de la santé sont immenses, et pas seulement en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA. Amandin Raoul Moussa.
Il y a vraiment beaucoup de défis à relever. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas la transfusion sanguine, il n'y avait pas le dépistage de la tuberculose. Et dès mon arrivée en 2023, nous avons mis en place ces deux dépistages. Si il y a le cas des infections bactériennes ou soit des problèmes biochimiques, nous on fait référence à l'hôpital universitaire de Berberati.
Berberati, c'est là que se rendent certains séropositifs pour échapper à la stigmatisation. D'autres vont même encore plus loin à Carno pour avoir accès à des soins. Mais ces hôpitaux manquent du minimum pour organiser la riposte. Bienvenue, Gazalima est le coordonnateur des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Aujourd'hui, si on parle beaucoup des pertes de vue concernant la prise en charge des PVVH, c'est dû à ce problème. Aujourd'hui, dans sa localité, il n'est pas accepté au sein de la communauté d'abord et au sein de l'hôpital qui est censé gérer les pathologies. Quand tu vas à l'hôpital, le même jour, ton identité est partagée. C'est vraiment un frein. Donc aujourd'hui, si ceux qui vont loin, ça va jouer sur leur prise en charge. Parce que la prise en charge du VIH, des ARV, c'est un traitement à vie. Mais s'il n'a pas la possibilité d'avoir le ressource financier pour venir prendre le traitement dans une autre localité, ça va jouer sur lui. Il y a plusieurs patients qui quittent Susuna Kombo pour venir prendre le traitement à Berberati. Il y en a qui quittent encore Berberati pour aller prendre le traitement vers Carro. Depuis plus d'un an environ, les patients n'ont pas accès au bilan charge virale.
À Susuna Kombo, la lutte contre le VIH-SIDA reste une préoccupation. Nombreux sont donc ceux qui misent notamment sur la sensibilisation pour une lutte plus efficace. Jean-Fernand Kouena de retour de Susuna Kombo pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci à vous pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission. Au revoir et à la semaine prochaine.